gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité a sûrement pour la musique un amour indescriptible. Du moins, son univers en est rempli. Pianiste jazz, il a collaboré à plusieurs émissions et accompagné de nombreux artistes. Chef d'orchestre, arrangeur, choriste, il partage aussi sa passion auprès de la relève à titre d'enseignant au cégep. Au gré du temps, il a développé cette liaison particulière avec la musique qui lui permet d'entrer en relation avec les autres. Avec nous, Mario Fraser. Bonjour.
Bonjour, Armand.
Une belle relation avec la musique. C'est presque votre vie, finalement.
Ben oui, c'est sûr que c'est ma vie. Ça peut pas être autre chose que ça. J'ai toujours voulu faire ça. J'étais tout jeune. J'avais 10 ans que je voulais faire un musicien. Fait que c'est ça que j'ai fait. Sauf qu'il y avait une chose qui allait en premier, c'était d'aimer aussi.
Oui, ben, on vient de le dire. C'est un amour indescriptible, la musique, mais ouais. Ça veut dire qu'on est aussi un être aimant, je présume. Quand on aime la musique, ouais. C'est parce qu'on aime être en connexion avec la nature.
Je te dirais que la passion peut être tellement forte qu'elle peut être aussi destructrice, je dirais. Ça fait qu'il faut être prudent. La passion, c'est une chose, faut s'en occuper, mais il faut aussi mettre la pédale douce. Des fois. Et moi, ben, tu vois, j'ai trouvé mon équilibre quand j'ai trouvé ma femme, dans le fond, tu vois.
Mais racontez-moi pourquoi ça peut être destructif.
Ben, en fait, c'est que c'est une question, si tu veux, comment je dirais, c'est bien, ça dépend des personnes. On peut, parce que si tu pratiques, tu joues, tu t'en vas ailleurs, tu rencontres des gens, c'est très bien, tout ça. Mais c'est que ça prend un équilibre. Dans le fond, c'est ça. C'est que ça, faut réussir à trouver un équilibre entre jouer, entre pratiquer, entre écouter des choses, vouloir faire mieux, faire des heures et des heures. Mais à un moment donné, ben la vie, ça peut pas juste être ça. Et non seulement ça, c'est que pour dire quelque chose en musique, écoute, quand on est jeune, c'est autre chose, peut-être, évidemment, j'en vois des jeunes puis qui ne font que ça, puis ils font ça pendant un bout de temps, puis c'est parfait, mais dans mon cas, à un moment donné, écoute, là, présentement, je suis plus un enfant, là. Tu vois, je viens d'avoir 60 ans, alors 60 ans, c'est pas rien.
On n'est pas encore à la canne.
Non, on n'est pas pantoute. Non, puis tu vois, même d'ailleurs, je suis retourné à l'école, je suis à l'université présentement,
ah oui,
où j'étudie.
Vous êtes encore un vieil étudiant, quoi.
Oh mon Dieu que oui. Mais j'aime ça, c'est parce que j'apprends des nouveaux concepts, puis j'en ai besoin, parce que je fais un deuxième album, puis je prends ça vraiment à cœur. Fait que là, je veux vraiment, je veux élargir mes horizons, tout simplement, tu sais, puis jamais trop tard, hein. Je veux dire, c'est pas comme si je voulais être champion de tennis à 60 ans, je ne l'ai jamais fait, là.
Oui. Non. Mais je reviens à la notion. D'équilibre.
Oui.
Est-ce à dire, je parlais de connexion, que ça peut amener parfois à être débranché de son environnement, débranché de la vie, de la vraie vie ou de la vie considérée comme normale. Il n'y a pas de normes dans une vie. La vie, c'est l'explosion de tout. On peut tout explorer. Mais peut-être qu'arrive un moment où on se sent un peu en parallèle avec la vie. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire?
En fait, ce que je veux dire, c'est que le côté... le musicien, par définition, est souvent un peu rock and roll. Mais ça se soigne, tu vois. Et puis, c'est important de soigner. Tu sais, à travers moi, mes années, j'ai eu des cas de suicide, hein, des amis qui ont décidé que c'était fini. Pourtant, c'était des bons musiciens, c'était des gars qui étaient bien hot, mais qui étaient malheureux. Mais remarque, écoute, la vie est pas facile. Qui nous a dit que la vie était facile? Je veux dire, ça l'est pas. Puis à partir du moment où tu sais que c'est pas évident, ben tu fais ce qu'il faut, me semble-t-il, pour essayer d'être heureux. Je pense qu'on n'a pas le choix, là, tu vois. Alors, ou en fait, on a le choix, on décide de ce qu'on va faire. On se prend en main ou on laisse faire, ou on laisse les événements nous barouetter, si tu veux. T'sais. Mais je voulais pas que ça se passe comme ça. Puis, ben c'est ça. Moi, tu vois, j'ai rencontré ma femme, j'avais 27 ans. Puis, je veux dire, j'étais mûr. À 27 ans, j'étais mûr. Mais je ne l'étais pas avant.
Elle a rétabli l'équilibre.
Oh, mon Dieu, que oui, c'est fantastique, ça. Tu vois, mais tu vois, autrement dit, tu sais, je pourrais facilement dire, ah oui, la musique, oui, c'est moi, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Mais avant ça, c'est ma famille, mes enfants, ma femme. Et ça, tu vois, c'était très, très porteur de bonheur, si tu veux. Tu sais, au détriment, des fois, de la pratique, évidemment, parce que j'ai fallu que je fasse des contrats dans ma vie. Là.
Oui.
Un contractuel, aller jouer pour Star Academy, aller jouer pour la télé, des affaires que, si tu veux, c'était pas du jazz, pas du tout. Là, tu sais.
On pourrait dire qu'au train où vont les choses, tout va bien.
Ah, ben là, oui. Mais au train où vont les choses, ça, c'est, cette pièce-là, c'est pour moi, j'ai vraiment composé dans le sens que la vie, c'est un voyage. C'est vraiment, écoute, c'est très premier degré, finalement, dans le fond. Là. Au train où vont les choses, j'ai imaginé un train, le train de la vie où on s'en va dans des endroits, puis des fois, c'est pas facile. Je m'imaginais en Sibérie, dans des endroits, dans des hauteurs, tout ça, puis c'est dangereux, on monte, on descend. Mais j'ai vraiment fait ça dans la pièce. Si tu l'écoutes, c'est ça. Tu voyages dans un train à quelque part.
On écoute. Au train où vont les choses, on vient d'entendre les doigts magiques de Mario Fraser sur son piano. Ça a été enregistré chez vous, d'ailleurs.
Oui, oui. Oui, ça, c'est mon Dieu, je pourrais t'en parler pendant des heures. Ça, j'ai eu la chance de mettre la main sur un piano unique, un prototype de chez Yamaha, qui a été fait en 1983. Ils l'ont fait, en 1983, ils en ont fait une trentaine, OK? Puis ils voulaient vraiment... Il voulait vraiment se rendre loin, Yamaha, dans ce temps-là, pour être contre, si tu veux, Steinway. Oui, beaucoup Steinway, puis Bösendorfer peut-être moins, parce que c'est plus encore plus établi, c'est demeuré là-bas en Allemagne, mais le Steinway new-yorkais, tout ça, mais je ne veux pas élaborer là-dessus, parce que j'en sais pas assez. Sauf que Yamaha font de très, très bons pianos, mais ça date pas d'hier. Puis, ils ont fait, en 1983, des prototypes montés par les ingénieurs en chef. Ça n'a jamais été sur une chaîne de montage. C'est les ingénieurs en chef. Et moi, j'ai le numéro, si tu veux, je crois que c'est 28.
Ah oui. Donc, 1983, c'est un bon millésime.
Ben, je comprends maintenant. C'est un S400 de Yamaha. Il y en a deux au Québec.
Ah oui, vraiment.
Il y en a deux au Québec. Il y a une dame, il paraît, au conservatoire de Québec qui en possède un. Bonjour, madame, je vous félicite en passant. Alors, je voulais vraiment faire mon album avec. Et puis, mais je pourrais en parler pendant des heures. Là, on n'est pas là pour ça. Mais si je tombe en amour avec, là, c'est un...
Et ça a été une belle expérience que cet enregistrement.
Ah! Mon Dieu! J'étais avec moi-même, puis j'avais des comptes à régler. Mais je te dirais, j'avais vraiment besoin de... C'est toute l'énergie que j'ai mis à éduquer les enfants, puis être avec ma femme. Puis tu sais, il fallait que j'en fasse des contrats. Musicien, c'est pas facile. Je faisais pas d'autre chose. On se posait souvent la question, « Oui, t'es musicien, mais tu fais-tu quelque chose dans la vie? » Ce qui n'était pas mon cas. C'est ça que je faisais, mais Dieu sait que j'ai quand même voyagé. J'ai travaillé fort. Puis stressé. Souvent, stressé. C'était de la musique pop, puis faire des affaires, puis un contrat, puis l'autre contrat. Puis...
On va pouvoir revenir à tout ce que vous avez fait, parce que vous êtes assez éclectique dans vos tâches, dans ce que vous avez pu faire. Mais on revient à cet enregistrement. Oui. Tantôt, on parlait du « Au train où vont les choses », on imaginait le voyage dans le train.
Oui.
À l'égard de ce que vous venez de nous dire, peut-être aviez-vous besoin de plonger à l'intérieur de vous-même, parce que vous nous parlez du premier silence.
Oh mon Dieu, oui. Mais ça, c'est extraordinaire. C'était la première pièce que j'ai faite de l'album. C'était le premier silence. Et pourquoi je l'appelle ça comme ça? Parce que il y a un compositeur américain, comment est-ce qu'il s'appelle, mon Dieu, je voulais le dire, Kenny Werner. Kenny Werner, qui il joue dans des ashrams là, pour ce qui est des gens qui font de la méditation. Mm-hmm. Je fais de la méditation d'ailleurs aussi. Mm-hmm. Il avait fait un... J'avais des élèves qui avaient comme des... Souvent, c'est souvent le cas. Ils vont avoir des stress au piano. Ils seront pas à l'aise. Alors, c'était pendant les fêtes, j'avais checké des vidéos sur YouTube, voir, je sais pas, qui pourrait montrer quoi. Puis, j'étais arrivé sur Kenny Werner, puis il a écrit un livre qui s'appelle « Effortless Mastery », puis il donnait un exemple là-dessus. Alors, c'est tout simplement que tu es au piano ou devant ton instrument, en tout cas, ça donne qu'il est pianiste aussi. Et puis, c'est juste sur ta respiration. Tu ne fais qu'écouter ta respiration sans déconnecter que ta respiration. Quand tu es prêt, tu vas jouer, tu vas mettre un doigt sur le piano, puis peu importe ce que tu accroches d'une note, on s'en fout, c'est pas important. C'est toujours de rester connecté avec ta respiration. Et le premier accord que j'ai fait de la pièce, le premier silence, le premier accord qu'on entend, c'est exactement, j'ai fait ça de façon, j'aurais jamais joué ça, et je me suis mis à improviser. Puis après ça, bien là, c'est sûr que j'ai travaillé mon affaire puis tout ça. Mais le premier silence, bien, c'était ça.
Et voici le résultat que tout cela donne. Thank you.
Et ça fait de la belle musique, Mario. C'est assez incroyable.
Oui, mais j'en suis très fier de cet album-là. J'ai eu la chance quand même de passer à plusieurs émissions de radio, puis notamment Radio-Canada aussi. Puis j'en suis très fier. Puis j'ai eu des super beaux commentaires de beaucoup de personnes. Puis écoute, c'est une belle carte de présentation, si tu veux.
Mario Fraser, qui est avec nous. Là, je vais vous faire un cadeau, puis vous pourrez peut-être me raconter une belle anecdote à l'égard de ce qu'on va entendre. C'est une vieille chanson qui a pour titre « Too Young ». Elle a été enregistrée sur un album qui rend hommage à Nat King Cole. Et c'est George Benson, ce guitariste qui a connu la belle époque des années 70. Là, il a été vraiment très populaire.
Oui, c'est un guitariste de jazz incroyable. Dans les années 60. Là,
tout
pour
à
ça,
fait,
là.
Aussi, oui.
Oui. Oui.
Mais dans les années 70, il a suivi un peu la vague disco et tout le reste.
Oui, c'est ça, avec des succès incroyables.
Mais il a fait un album que je qualifierais presque d'intimiste, avec différents chanteurs et chanteuses. Là, on va l'entendre avec Judith Hill, qui est une lauréate de Voice, de l'émission La Version Américaine, bien sûr. Alors, on écoute Too Young, George Benson. Je pense que ça va vous plaire.
They try to tell us we're too young. Too young to really be in love. They say that love's a word we've only heard, and can't begin to know the meaning of.
Ça évoque quoi pour vous, Mario, cette pièce?
Écoute. Anecdote. Moi, tu sais que ça fait maintenant, je pense que ça fait 3 ans, 4 ans, peut-être 5, ça va tellement vite. George Benson est venu à Montréal pour l'hommage à Nat King Cole. On parle de la grande salle à Place des Arts.
Oui.
OK? Moi, c'était l'été. OK? C'était au mois de juillet, je crois, qu'il est venu. Mais je voulais y aller, ça se peut pas. Puis je voulais...
Pas la Maison Symphonique, là.
Non, pas la Maison Symphonique.
La salle Wilfrid Pelletier.
Oui, exactement.
D'accord.
Mais avec des cordes, avec chef d'orchestre. On parle de, je pense qu'il y avait 18-20 musiciens. C'est une grosse affaire. Et j'adore Nat King Cole. J'adore les arrangements de cordes. J'aime bien, bien ça. Et puis, puis George Benson, j'aime bien gros aussi. Fait que là, je dis à ma femme, je dis, chérie, on va voir George Benson. Elle dit, ouais. Puis là, je regarde les prix de billets, puis je voulais avoir une pièce, un endroit qui avait du bon sens. On parlait de 145$.
Quand t'es allé voir George Benson, on va s'installer confortablement.
Okay. Mais tu sais, alors, c'est ça, être musicien, des fois, c'est ça que ça donne aussi. Là. Mais là, 145, mais c'est bien par deux.
Surtout quand on est musicien.
Bien, c'est surtout que quand ma femme, c'est elle qui s'occupe de l'argent, ça fait que... Elle dit, Mario, ce n'est pas raisonnable, il n'y en a pas question. Là, moi, je suis de très mauvaise humeur. J'adore ma femme, mais je suis de mauvaise humeur pareil. Alors, je descends dans le sous-sol, puis là, je bougonne, c'est pas possible. Ça, je te jure et je vous dis, chers auditeurs, que c'est vrai, comme vous m'entendez présentement. Je descends, je m'en vais dans le studio. Écoute, c'est pas passé 3 minutes, là, je suis assis, le téléphone sonne. Bon, oui, bonjour. Mr. Fraser, Mario Fraser, we want to have a carriage for the show for George Benson at Montreal. Quoi? Quoi? C'était sûr, c'était une joke. C'était pas une joke. Il manquait de choristes et il y avait besoin, on était six, il y avait besoin de six choristes. C'était écrit, c'était extraordinaire. Alors, je me suis ramassé sur scène avec George Benson, avec des choristes, et j'ai vu le show sur scène. C'était, écoute, puis ça s'est passé aussi vite que ça.
C'était la meilleure place.
Mais c'était fantastique. En plus, le chef d'orchestre était chef d'orchestre pour Barbra Streisand pendant 15 ans. C'était écrit de façon fantastique. Les chœurs étaient écrits avec des voicing magistraux. C'était, ah non, écoute, c'était une soirée mémorable. C'était fantastique, honnêtement.
Quelle belle histoire.
Oui, oh oui, oui.
On va terminer cette première partie en vous écoutant à nouveau Un amour de France.
Ah, ben oui. Ah, ben oui. Ah oui, mais alors.
Ben ça oui. Dit tout.
Non, oui, ça dit tout, certain. Je veux dire, j'avais déjà dit à la France.
On a compris qu'on ne parle pas de la France. Non. On parle de votre France.
Non, mais je faisais quand même un jeu de mots pareil. Oui. Il y avait un petit quelque chose par rapport à ça.
Votre conjointe s'appelait France.
Oui, puis j'adore la France. Mais en fait, c'est que je ne pensais pas être capable d'écrire une pièce pour elle parce que ça me prenait trop à cœur. Mais j'ai fait quelque chose, puis ça, c'est là. Thank you.